lundi matin à tous. J'espère que vous allez bien. Belle fin de semaine. Max, comment ça va?
Ah bien, toi?
Ah, super bien, ça va super bien. Un gros merci.
Good.
Max, tu parles un peu du nez ce matin. Tout va bien?
Ouais, tout va bien, tout va bien. Là. Je regardais nos jeunes sur l'équipe nationale là, sous le soleil chaud. Puis moi, les deux pieds mouillés dans le slot. Quasiment pas dans le slot, là, mais dans le gazon mouillé à ramasser les feuilles, c'est ça qui arrive.
Parle-nous donc des jeunes qui sont partis, ils ont quitté vendredi ou jeudi,
ouais,
si je me trompe.
Ils ont quitté le 13 octobre, ils sont là-bas, on a la chance d'avoir un petit groupe privé aussi, où il y a un des parents qui est là, qui nous montre toutes les pratiques au bâton, les échauffements, les games. Rapidement, là, si tu me permets, là, nommer nos cinq joueurs à l'équipe nationale, Charles-Olivier Cyr, Dayton Lachance, Elliott Cadieu-Lanoux, Jérémy Pilon et Jimmy Dion, qui sont les cinq sur le roster de Team Canada Junior. Cinq joueurs, on est très heureux. C'est cinq gars issus du programme. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis en plus, ils font super bien. Elliott a lancé quatre manches il y a deux jours. Jay Pilon aussi lancé. Dayton catch plusieurs manches. COC frappe et lance aussi. Jimmy Dion fait les deux aussi. Donc, on n'a pas juste des gars qui sont unidimensionnels. On a des gars qui sont toués aussi, qui font super bien en même temps. Donc, pour l'instant, c'est que des bonnes nouvelles. C'est une belle expérience pour eux. Ils sont traités. C'est un peu inconnu, mais quand les joueurs atteignent l'équipe nationale junior, c'est comme si tu arrivais dans un clubhouse pro. Tu as 50 bâtons Rawlings, tu as un casque, tu as ton casier, tu as tes 3-4 jerseys, tu as tes t-shirts, tu as ton lavage à tous les jours. C'est un rythme professionnel. Les gars ont leur propre lit, sont deux par chambre. Sont voyagés, sont pris en main. C'est une expérience absolument extraordinaire. Puis ça, tu ne peux pas l'acheter. Il faut que tu sois sélectionné par Greg Hamilton, qui est l'entraîneur. Puis quand tu as la chance de vivre ça, c'est incroyable comme expérience.
C'est un bon boost pour eux autres, c'est clair. Là. Quand tu absolument. À la fin de cette expérience-là, tu es comme, OK, j'en veux d'autres. Je veux répéter ça, là, c'est clair.
Oui, exactement. Puis tu sais, quand on regarde là, les Elliott, Dayton puis Jérémy, c'est des gars de 16 ans. Ça veut dire qu'ils peuvent le vivre à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Puis c'est à peu près entre 5 et 6 événements par année, l'équipe nationale. Donc, on a octobre, on a mars, avril, mai ou septembre, dépendamment s'il y a des championnats du monde. Fait que c'est beaucoup d'événements. C'est tout le temps la même expérience extraordinaire, le traitement royal à toutes les fois. Quand tu as la chance de vivre ça pendant 2 ans, ça t'amène à un autre niveau complètement aussi. Là, l'ABC vient en soutien par rapport à ces joueurs-là, où qu'on les prépare tout le temps pour ces camps-là, puis les autres événements qui s'en viennent. Fait que c'est super bien fait. C'est très le fun pour eux aussi.
C'est quoi la suite des choses pour eux autres?
Bien, eux autres, là, ils vont revenir le 24 octobre. Après ça, on va rentrer dans ce qu'on appelle le off-season. Là, on n'a plus d'événements baseball à partir de novembre, décembre, janvier, février. C'est que de l'entraînement en salle de muscu, de l'entraînement baseball, la préparation mentale, la nutrition. Scoré à l'école, qui est priorité numéro un, en fait, là, après tout ce que j'ai nommé. Puis se préparer pour le mois de mars, où il va peut-être avoir un voyage de l'ABC ou il va avoir un voyage de l'équipe nationale. Donc, ça, c'est le target qu'il faut avoir en tête. Puis là, la roue, elle tourne sans cesse pendant 2 ans. Puis se trouver une école du côté américain aussi, là, soit NCAA, soit Junior College, dépendamment des visées de chacun. Donc, C'est le dernier blitz là, de 1 an, 2 ans pour ces joueurs-là là, avant de quitter vers les États-Unis.
Ouais, ça, j'allais dire, c'est le dernier sprint, mais le blitz, c'est un bon mot aussi. Hey Max, on a un bon show ce matin. Le retour du barbu ce matin avec nous autres. On va avoir Max aussi qui a un petit problème avec les enfants, la garderie, fait qu'il va arriver un petit peu plus tard. Max Lamarche, évidemment. Mais juste avant d'aller au barbu de ville, deux petites choses. Un, j'en parle à chaque fois, là, mais le e-sport, pas le show du matin, mais MLB de show, Baseball Canada qui organise un événement qui aura lieu le 7 novembre. C'est encore le temps de s'inscrire, vous avez jusqu'au 22 octobre. Donc, ceux qui veulent participer à un événement unique. En fait, là, c'est la première fois que le Canada au complet organise ça. Donc, pour faire ça très rapidement, chaque province a son tournoi. Le Québec, c'est le 7 novembre, puis les gagnants de chaque province vont s'affronter là, dans un tournoi ultime à la fin de tout ça. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous rendre sur baseball.ca, ce qui est le site de Baseball Canada. Vous allez voir les informations là. Je vais mettre le lien sous notre vidéo de ce matin. Deuxième chose, j'en ai parlé vendredi avec Vanessa, mais on a lancé la page Facebook du show du matin. J'ai lancé ça hier soir. Donc, les gens qui veulent aller sur cette page-là. Évidemment, le show du matin, il va être diffusé sur Baseball Québec parce qu'on est beaucoup plus nombreux, mais le show du matin peut devenir une genre de petite société où est-ce qu'on jase puis je fais de la promo. Ben on fait de la promo. Donc, ceux qui ont des questions, ceux qui veulent jaser avec nous, vous allez sur cette page-là puis on va jaser nos intervenants comme Max, Vanessa, Robert, Jeff Arsenault, Sylvain, ils vont tous être présents sur la page aussi pour vous répondre à vos questions. Sans plus tarder, Max, si tu n'as rien à ajouter, évidemment.
Non, juste que c'est lui qui nous a donné le plus grand fou rire de la première saison. Je suis content de le recevoir une fois de plus.
Ouais.
Ceux qui ont manqué les meilleurs moments, là, vous devez écouter les meilleurs moments puis arriver à la 25e minute. C'est le moment qu'on a tous craqué et qu'on a ri énormément.
Ouais, ouais, non, c'était un excellent moment. C'est le même, c'est juste après, c'est un des derniers shows de l'année. C'était juste après Michael Kingsbury et Éric Gagné. Le Barbu de Ville, boom, qui se pointe de toute beauté. Je mettrai le lien, en fait, dans les commentaires. Pas dans les commentaires. C'est un moment merveilleux, épique. On fait une petite pause, Max, puis on va rejoindre le Barbu de Ville.
Parfait.
Play ball!
Monsieur le Barbu de Ville, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va très, très bien. Tu te souviens de ce moment épique-là, évidemment, j'imagine, le moment où est-ce que tu avais de la misère avec ta caméra, puis tout ça, là?
Oh, oui, absolument, puis que je passais après des athlètes, là.
Ah oh, ouais, ouais, c'était excellent, c'était excellent.
Ouais. Comment ça va, Barbu? Ça fait un petit bout qu'on ne t'a pas parlé. Les choses vont toujours bien?
Ça va super bien. On a eu une belle été de baseball avec les Rebelles et ma fille. J'entendais Max parler de l'ABC, c'est l'objectif de Mathilde, l'ABC féminin. Elle a 14 ans, puis elle est en bonne route pour aller à l'ABC, là, ça va très bien.
Fantastique.
Du gros baseball.
Les projets personnels, barbudeville.com, ça roule toujours?
Ça roule toujours. Là, j'ai une apparition à Radio Cannes le 3 novembre avec Marie-Louise Arsenault pour présenter mon livre. La vente du livre va bien aussi, donc tout est tout. Puis, j'ai une résidence à partir du 29 octobre à Sainte-Sophie. C'est-à-dire, quand je dis résidence, je donne un show une fois par mois chez Alex Le Barbier.
OK.
Ouais, ça va bien.
Solide, cool. Solide. Ce matin, tu nous parles de quoi? C'est quoi ton histoire ce matin?
Ben, le gars de qui je vais vous parler, c'est pas un gars que je connaissais. Il a fallu que je gratte un peu dans l'histoire du baseball. J'ai cherché le gars le plus bizarre. Tu sais, on va se souvenir de John Wetland, l'ancien closer des Expos, qui disait qu'à la fin de sa carrière, le plus sérieusement du monde, il voulait aller bâtir des franchises de Dunkin' Donuts sur la planète Mars. Il y a eu Bill Lee aussi, Turk Waddell, un ancien choix des Expos qui a joué avec les Cubs de Chicago, qui lui se brossait les dents en chaque manche.
Ouais, je me rappelle de ça.
Ouais, tu te rappelles de ça? Puis il sautait les lignes, puis il fallait pas que s'il pilait sur une ligne, là, ça allait plus bien. En tout cas, c'est un gars qui avait bien des problèmes dans la tête. Mais j'ai trouvé le gars le plus bizarre. Clairement, c'était un gars, c'est une patte gauche, on est surpris. C'est Rube Waddell.
Je te laisse aller.
Yes. Rube Waddell. La patte gauche est née le 13 octobre 1876. Dans la petite ville de Branford, en Pennsylvanie. Il deviendra le joueur de baseball le plus étrange, excentrique et bizarre de l'histoire des majeurs et de loin. Il est décédé le 1er avril 1914 au Texas à l'âge de 37 ans, excusez-moi. Comme bien des gens de cette époque, Waddell est mort de tuberculose. Je vous raconte une anecdote. Un après-midi de juillet, Waddell lançait pour les Orphans de Chicago, les anciens Cubs, contre les Cards de Saint-Louis. On est en 1901. Le stade était rempli à craquer pour voir le fameux lanceur gaucher. Il attirait les foules comme pas un. On est en septième manche. Il y avait un match parfait jusque-là. Son coach de l'époque ne savait pas la folie qui habitait Waddell. Il allait le découvrir cette journée-là comme tous les spectateurs d'ailleurs. Pour l'instant, il n'était vu comme un lanceur exceptionnel et non une bête de cirque. Au bâton se présente le dangereux Jesse Burkitt et sa ronflante moyenne de 376. Le match parfait est en péril. Burkitt, cette journée-là, n'a vu aucun lancer. Niet, nada. Juste avant de faire sa motion monticule, Waddell a entendu un camion de pompiers dans la rue à côté du parc de baseball. Il a laissé tomber la balle par terre. Il s'est mis à courir comme un fou en criant « Il y a un feu! Il y a un feu! » Comme un chien, il aimait courir après un camion de pompiers. Ça, c'est vrai, là. C'est écrit dans le New York Times de l'époque. C'est ainsi que le propriétaire des Orphans, pour le vrai, fermait les rues autour du stade quand Rube lançait. Il était fréquent que les matchs de Waddell commençaient en retard, car il était toujours au parc à jouer avec les enfants à Marel, ou parfois il manquait carrément parti, car il était parti à la pêche à la place. En fait, il y avait juste une priorité dans la vie de Waddell, avoir du bon temps. 26 octobre 1903. Ce soir-là, il jouait dans une pièce de théâtre, en plus d'être toujours un lanceur d'exception dans les majeurs. Il y avait eu une année extraordinaire. 21 victoires, 2 défaites, 302 retraits au bâton. Ce soir-là, à côté du spectacle, à côté de la pièce de théâtre, il y avait un cirque. Et Rob est allé se battre avec un lion. Oui, il n'aimait pas les lions. Il est rentré dans la cage, il a donné un coup de poing sur le nez du lion devant lui. Le lion l'a mordu à la main gauche. Sa main avec laquelle il lançait, il a manqué l'année au complet, l'année dans le suite. Il a joué pour 5 équipes. En 14 ans de carrière, il a été marié autant de fois. Certains ont spéculé sur des problèmes mentaux qu'il aurait pu avoir, mais il n'a jamais été diagnostiqué. On parle entre autres d'autisme. Une chose est sûre, il souffrait d'alcoolisme. D'ailleurs, ses problèmes lui auront gâché ses plus belles années de baseball. Si seulement c'était l'alcool, il a perdu aussi ses amis, s'est divorcé. Ses divorces ont été causés par la boisson, mais c'était plus fort que lui. Puis le jour qui est mort, sa maison de campagne, il a décidé de se faire enterrer 90 pieds plus loin que sa maison de campagne, ça vous donne une idée. Puis, il fut malgré tout la première grande vedette du baseball majeur à l'époque. C'est pour ça qu'il fut élu au Temple de la Renommée par le Comité des vétérans en 1946.
Way to go. Un bon yard, Rube.
Il y en avait plein d'anecdotes que je n'ai pas écrites, mais ouais, c'est tout un numéro.
Celle du camion de pompier est bonne. Est vraiment bonne.
Pas de bon sens. Hein?
C'est quoi qui a crié quand il a entendu le pompier?
There's a fire! There's a fire! Il y avait un match parfait, là. Il était rasé en 7e manche.
Wow.
Oh,
wow.
Merci pour ça. Ouais, parce que ça fait un petit bout, le Wrigley, puis lui, il était là au début, exact, c'est ça. Mais c'est non, c'est merveilleux, ça. Merci de me faire rire de même un matin.
c'est parfait, parfait.
Rappelle-nous, où est-ce qu'on peut te lire?
Au barbudeville.com, bien sûr. Puis sinon, mes réseaux sociaux, c'est toujours Barbudeville, là, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, etc.
Très actif en plus. Fait que ceux qui veulent jaser avec le barbu sur Twitter, un peu partout, c'est très, très, très facile. Merci, barbu.
Ben, ça fait plaisir.
Merci Bonne beaucoup. Fin de journée. On se revoit bientôt.
Absolument.
Salut. Salut. On fait une petite pause et on rejoint Max Lamarche.
Play ball!
Maxime Lamarche, bon matin.
Hey, bon matin les gars. Comment ça va?
Bon matin, Max.
Très Top bien, shape. Toi. Je me remets un peu de mon fou rire. Là. J'ai comme le gag là, un peu facile. Là, le...
ouais, j'ai écouté le barbu là, en courant. Là, en revenant ce matin, c'était un départ difficile pour la troupe vers l'école. La garderie, on était en retard partout. D'ailleurs, j'étais arrivé en retard avec vous aussi. Fait que j'écoutais sur mon iPhone. Puis je me disais, hey, Khalid, j'aime ça entendre ces petites histoires-là. Ça me fait bien rire. Puis ça me fait du bien.
Il y a des matins de même, c'est correct. On te parle.
Il y a des matins de même. Oui, absolument.
Il nous reste encore en masse de temps pour jaser des projets des dernières semaines, parce que ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'est pas jasé, Max, en live sur Facebook. Dernièrement, tu es allé au congrès de l'AQLM. Parle-nous de ça un peu.
Oui, le congrès de l'AQLM. L'AQLM, c'est l'Association québécoise du loisir municipal. Donc, c'est l'ensemble des intervenants qui gèrent le loisir et le sport à travers les municipalités du Québec. Puis, c'est la deuxième fois qu'on y va. Évidemment, l'année passée, on est. Ben, en fait, la troisième fois, l'année dernière, JF, tu as tenu un kiosque virtuel hein, lors de leurs assises. Fait que c'était toute une expérience. Hein, c'était différent. C'est pas comme d'habitude. Puis, j'ai décidé avec Pascal Jean, un de nos collègues, d'aller directement au congrès. Mais pas juste pour aller fouiner, puis me promener, puis parler. On a vraiment pris un kiosque, un espace, parce que on voulait envoyer un statement clair que. On a besoin d'infrastructures à jour, on a besoin de nouvelles infrastructures et je peux me permettre de le dire parce que j'y crois vraiment, attendez pas que les expos, les rays, les x-rays, les carnavals, je ne sais pas comment ils s'appelleront, reviennent parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez être en retard. Donc, on est allé à Trois-Rivières, au centre des congrès de Trois-Rivières. On s'est inscrit comme exposant. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il n'y a pas de fédération qui font être là comme exposant. Alors, les gens qui sont là, c'est des gens qui vont construire, qui vont être capables d'offrir des services à des municipalités, du gazon synthétique, des fournisseurs de piscines ou de matériel pour les centres aquatiques, des compagnies privées qui donnent des services d'animation, à titre d'exemple, pour les camps de jour, mais des fédérations. Mes collègues de l'ensemble de la sphère aquatique étaient sur place et on avait le patinage de vitesse, mais on était seulement trois fédérations. Et ça a valu la peine, encore une fois, je crois, parce que ça nous a permis vraiment de camper ce qu'on voulait puis ce qu'on voyait du baseball pour le baseball dans les prochaines années au niveau des infrastructures. Les gens passaient à notre kiosque et voyaient... Et je fais une petite anecdote, c'est drôle, parce que quand on faisait le montage, évidemment, de notre kiosque, tout le monde s'installait, puis nous, au centre de notre kiosque, si vous avez vu les photos peut-être sur Facebook, on a une télé. Puis, il était 2-3 heures avant qu'on commence, comme on appelle le showcase, là, où est-ce que les congressistes ils peuvent circuler à travers les kiosques. Puis moi, j'ai dit, hey, tant qu'à avoir rien sur la télé, on va mettre Moneyball. Fait que j'ai ouvert Netflix, puis j'ai parti un Moneyball, et après avoir été chercher un bon café, il y avait 5-6 personnes de loisirs, des directeurs de loisirs et de sport qui étaient devant la télé puis qui regardaient Moneyball. Fait que je trouvais ça bien drôle. Fait qu'on était capable d'établir un petit peu le contact avec le baseball et avec ce film-là qui est un chef-d'œuvre. Mais bref, c'est ça. Fait que les gens venaient nous voir. Puis c'est surprenant comment il y a des municipalités qui disent « Hey, là, c'est vrai qu'il faut se parler, puis pas à peu près, parce que là, ça pousse vraiment beaucoup chez nous. Là, puis là, je sais pas trop quoi faire. » Puis là, on essayait de les conseiller puis leur expliquer que, ben si vous avez pas de place, peut-être que de faire deux tunnels, là, des cages extérieures avec un toit, ben ça va vous permettre, exemple, dans pas trop de pieds carrés, de faire des pratiques ou de dire à vos équipes, s'il y a de la pluie, ben allez pratiquer quand même. D'autres avaient plus d'espace. Puis là, on leur expliquait, ben peut-être que vous pourriez faire deux terrains, un terrain. Fait qu'il y a eu bien des belles discussions qui se sont faites. Et il y a encore des municipalités qui sont comme, ah ouais, hey, le baseball, c'est en augmentation. Ben oui, le baseball, c'est en augmentation. Fait que là, je mettais mon jacket de vendeur puis je leur parlais. Fait que ça a valu, honnêtement, ça a valu la peine. Puis les gens, je pense que les gens de l'AQLM, la directrice générale Geneviève Barrière ou la présidente Manon Landville ont vraiment apprécié notre visite, ont apprécié qu'on soit là aussi parce que, veux, veux pas, on se le dit pas assez souvent, mais un des plus grands partenaires, ça reste quand même les municipalités. Hein, parce que si les villes nous mettent pas en place des terrains de baseball, si les villes n'entretiennent pas les terrains de baseball, ben il n'y aura pas beaucoup de games à travers le Québec. Fait que ça a valu la peine d'aller y faire un tour. On est bien, bien contents. On a développé des nouveaux liens. Puis je peux vous dire, sans nommer de ville, qu'il y a beaucoup de projets de baseball.
L'ébullition présentement à travers le Québec.
Parle-nous donc de ça, justement. C'était une de mes prochaines questions. Ça a l'air de quoi sur le terrain?
Bien, on peut pas... je vais juste enlever mes écouteurs parce que j'ai bien compris qu'ils ne fonctionnaient plus. Je ne peux pas nommer des projets, malheureusement, JF, parce que, évidemment, ça sera aux municipalités ou aussi au gouvernement provincial d'en faire les annonces, mais on est dans une phase beaucoup, beaucoup... En plus, il y a les élections, hein, je ne ferai pas de cacher le monde présentement qui, à travers leur campagne électorale, font des promesses baseball, parlent de la vision qu'ils ont pour le baseball, mais il y a beaucoup de municipalités à travers le Québec qui sont présentement dans leur plan directeur. Donc, dans le plan global des infrastructures sportives, et on en a profité pour jaser avec eux des fois avec une petite limonade jusqu'à 3 heures du matin. Hein, faut en profiter, c'est des bons moments pour le faire. Donc, il y a beaucoup de plans directeurs qui sont en train de se bâtir, puis les municipalités n'ont pas de gêne à nous venir nous poser des questions parce que les terrains de baseball, là, dans les 30-40 dernières années, il n'y en a pas une tonne qui ont été construites à travers le Québec. Donc, l'expertise, elle n'est pas tant à travers le Québec ou à travers ce qui a été créés ou conçus ou construits. Donc, ils ne sont pas gênés de venir nous voir. Fait que j'ai l'impression qu'on va avoir des bons résultats. Passons les élections municipales, puis après ça, on va encore plus taper sur le clou pour avoir des nouveaux terrains de balle à travers le Québec ou des terrains qui sont rénovés, qui sont sécuritaires puis qui font que les jeunes vont avoir du fun dessus.
Oui, puis ça, c'est le nerf de la guerre. Là. Je me suis promené beaucoup avec mon jeune qui joue dans le Moustique, puis l'entretien des terrains de baseball est affreuse. Là. Les terrains ne sont pas droits. Les enfants ont peur de la balle avec raison. Il y a des mauvais bons à pelleter. C'est pas droite, c'est croche. La plaque du lanceur est croche, la plaque aux barbes est croche. On renfonce dans le sable. Ça n'a rien à voir avec un vrai terrain de baseball. Puis je pense que tant qu'à faire quelque chose, il faut être en mesure de l'entretenir. Puis si on n'est pas capable d'entretenir le terrain, il faut se poser la question, est-ce qu'on y va avec du synthétique qui est beaucoup plus facile à entretenir qu'un terrain naturel? Je pense que les villes ont des introspections à faire par rapport à ça. Max, moi, je voulais t'amener sur l'article de Jérémy Filosa avec les 98.5, où ce qu'il nous parlait de peut-être une discussion entre Baseball Québec et Hockey Québec pour réaligner un petit peu les mois où ce qu'on joue au hockey puis les mois où ce qu'on joue au baseball. Tu peux-tu nous en parler un petit peu de ça, s'il te plaît?
Ben, des fois, les gars, il y a des choses qui sont hyper logiques. À comprendre, où on se dit le gros bon sens doit l'emporter, mais on n'est pas capable. Puis ça, c'est un dossier où on n'a pas encore, tant qu'à moi, évolué assez. On a deux, trois organisations, Hockey Québec, Baseball Québec, Soccer Québec aussi, hein, parce que veux pas le baseball et le soccer ensemble, c'est près de 200 000 athlètes durant l'été. Là, c'est énorme là, ce qui se passe. Puis je pense que les trois fédérations, on est d'accord avec les principes que on devrait s'ajuster un peu mieux aux saisons. Vous savez, le mois de septembre est le troisième plus beau mois de l'année côté chaleur, côté pluie. Donc, bien avant le mois de mai, puis avant le mois de juin. Donc, quand je parle avec mes collègues, exemple avec Mathieu Chamberlain, Mathieu utilise au soccer, utilise un petit peu plus encore même l'automne que nous, on le fait. Mais ça devient super logique de dire, est-ce qu'on peut décaler les saisons pour que le baseball peut-être se termine plus au début octobre et qu'on commence directement à l'extérieur? Puis j'ai l'impression que je le nomme aujourd'hui, puis c'est une discussion qu'on aurait pu avoir il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et évidemment, quand je parle avec les gens de Hockey Québec, avec Paul Ménard, maintenant qu'il y aura un nouveau remplaçant à la direction générale, ben pour eux autres aussi, c'est hyper logique. Où ça devient compliqué, c'est quand on parle avec les gens ou quand les autres fédés parlent avec leurs gens sur le terrain. Et le grand défi avec le hockey, c'est que, première des choses, il y a beaucoup d'entreprises privées, il y a beaucoup d'arénas privées qui, eux, ont besoin de joueurs et de joueuses à l'année, ont besoin de commencer leurs infrastructures, leurs opérations plus tôt durant l'été. Donc, pour générer des sous, puis évidemment, soit être profitable ou au moins break-even dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est un grand défi. Fait que Hockey Québec est à la même place que nous à passer cette philosophie de « on peut-tu commencer plus tard, finir plus tard? » Mais je pense qu'il y a des défis au niveau du terrain avec des organismes, des fois, qui sont plus privés. Que nous autres, on ne vit pas au baseball. Tu sais, au Québec, des terrains privés, il n'y en a pas une tonne. Je ne serais même pas capable d'en nommer sur les cinq doigts de ma main, tandis que les arénas privées au Québec, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, le défi, c'est de descendre ça plus bas dans la structure jusqu'aux propriétaires d'infrastructures, jusqu'aux propriétaires d'école hockey ou tout ce qui est en lien avec la business du hockey à ce niveau-là. Puis, c'est une discussion qu'on aura que j'aurai avec le nouveau directeur général. Moi, je suis super enclin à ce que la saison d'hockey se termine plus tard, qu'elle se termine au mois d'avril sans problème. Puis après ça, pour nous autres, on sort directement au mois de mai. Ça fait deux ans qu'on sort les camps d'entraînement à l'intérieur et à l'exception pour les joueurs et les joueuses qui veulent faire du baseball à l'année parce que c'est ce qui les fait triper. C'est pas nécessaire qu'on soit dans un gymnase avec un plancher de bois franc, attraper des balles et des roulants ou à faire des exercices, à sauter sur des bancs d'éducation physique pour pratiquer nos pas croisés ou ainsi de suite ou courir en rond pour faire notre échauffement. Je pense que nous, ce qu'on veut, c'est être sur les terrains de baseball. Puis je pense à l'ensemble des entraîneurs du Québec qui ont à faire des évaluations. C'est beaucoup plus facile de faire une évaluation d'un joueur pour lui dire « toi, tu t'en vas dans le 2A » ou « toi, tu t'en vas dans le A » ou « toi, tu t'en vas dans le B » en étant à l'extérieur, en voyant comment il réagit sur le terrain dans un avant-champ. Attraper une balle, hein, tu sais, Max en a parlé quand on parlait de la sécurité des terrains, attraper une balle qui est dans un gymnase là, qui va être droite, 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 qui n'aura pas de bond, on n'a pas évalué les réflexes, on n'a pas évalué de la manière, est-ce qu'il y a réellement peur de la balle? Ramène ça dans un avant-champ un petit peu sablonneux qui n'est pas tourné. ben, on découvre d'autres choses. Fait qu'on aurait tout à gagner à commencer directement à l'extérieur et à poursuivre en septembre, puis peut-être même jusqu'au début du mois d'octobre, jusqu'à temps que la saison des pluies commence. Puis là, ouais, la saison des pluies est commencée, fait que ça sera le temps de retourner à l'intérieur dans les arénas, puis même, nos jeunes auront eu en masse de vitamines à l'extérieur.
Même pour les joueurs de hockey, tu sais, les entraîneurs, tu dis évaluer leurs joueurs au baseball, mais au hockey, la moitié des gars sont pas là parce qu'ils n'ont pas fini leur saison de baseball et tout. Fait que là, tu sais, t'as pas l'équipe intégrale, puis ça devient plus compliqué tout ça.
Puis on place nos athlètes dans des situations un petit peu poches aussi parce qu'ils ont le droit d'aimer deux, trois, quatre sports. Puis là, on les met devant des choix à faire de ben, est-ce que je finis ça ou je m'en vais débuter ma saison de hockey, et ainsi de suite. Fait qu'il y a ça aussi. Je pense qu'on doit se responsabiliser comme adultes puis prendre des décisions pour le bien de nos athlètes. Exact. Fait que faut faire attention à ça.
Ouais, moi, j'en ai vu se promener là, d'arriver en retard au baseball parce qu'il était au hockey, manquer une game de finale d'une série de baseball parce qu'il était au hockey puis il veut pas se faire couper. Puis même si on dit ouais, mais il ne peut pas te couper à cause de ça. Il y a la crainte du parent, il y a tout le temps le complot qui plane au-dessus de notre tête, puis qu'on pense que parce qu'il l'a manqué, il va se faire couper. Puis là, tout le monde est divisé en deux, puis personne ne sait quoi faire. Fait que, mais ça reste encore que ce que tu émets comme propos, Max, c'est que c'est pas l'athlète qui est au centre des priorités, là, c'est l'argent qui est au centre des priorités présentement, puis c'est ça qui est le gros frein. Fait que ça, c'est triste. Pas à peu près. Je peux comprendre le propriétaire d'Arena qui ne veut pas perdre d'argent, mais à la fin de la journée, si on décale, je vois pas où il va perdre son argent. Là. Les écoles, ils vont décaler aussi, puis tout le monde va juste décaler. Mais ça reste qu'il y a 12 mois dans l'année, tu peux pas vendre 13 mois de glace. Là. Tu peux en vendre 12 mois de glace. Fait que...
ouais, puis tu sais, si je peux me permettre de conclure sur ce sujet-là, deux choses, c'est, je le renomme encore, au niveau provincial, là, au niveau des fédérations, c'est des partenaires qui veulent. Qui sont d'accord avec ces grands principes-là. Maintenant, le défi, c'est de l'amener jusqu'en bas et que tout le monde le comprenne, puis trouver le moyen que ça se passe. Puis l'autre côté où on a un autre défi, puis si on parlait de la QLM tantôt, bien, c'est de parler avec d'impliquer les municipalités dans cette discussion-là, parce que vous le savez, les municipalités, il faut qu'ils entretiennent des terrains de baseball. Puis la plupart du temps, bien, c'est on fait de l'entretien de terrain, on rentre tout le staff dans les arénas pour préparer les arénas. Fait que aussi là, il y a une gestion de tout ça qui est à voir. Fait qu'il va falloir les impliquer dans la discussion.
Puis c'est là que Max, encore là, en parlait tantôt, mais que le synthétique devient intéressant parce que c'est beaucoup moins d'entretien au niveau de passer la gratte, mettre les buts, puis tout ça. Un jeune qui travaille pour la ville peut s'occuper du terrain, tandis que dans une aréna, le gars de Zamboni, il fait la Zamboni, pas n'importe qui peut le faire, le terrain de balle, ben c'est ça. Synthétique, je trouve que c'est beaucoup plus simple.
Particulièrement en cas d'entraînement, ton synthétique est réservé de 8h à 20h, puis t'as une panoplie de jeunes qui sont là 2 heures de temps, ça roule. T'es capable d'en mettre des joueurs de baseball là, en dedans de 2 heures sur le terrain synthétique. Quand t'as pas besoin de le tourner, t'as pas besoin d'entretenir à rien, de changer les buts, ça se fait tout seul. Fait que...
Exact.
Ouais, exact. Max, il reste pas beaucoup de temps. On en reparlera en profondeur dans les prochaines semaines, si tu veux, mais j'ai envie de t'entendre rapidement sur les manches supplémentaires. Je me suis fait poser pas mal de questions. Les gens ont hâte que ça revienne.
Oui, c'est vrai. Puis ça s'en vient. On est en train de finaliser l'horaire des manches supplémentaires. Puis, tu sais, évidemment, on a plein de débats, nous, à l'interne, parce que organiser les manches supplémentaires, c'est une grosse charge pour les employés parce qu'il faut les monter, ces présentations-là, puis il faut s'assurer qu'elles sont pertinentes. Donc, on est en train de les finir, mais on se posait la question, est-ce qu'on veut avoir le même volume? Parce que l'année dernière, quand on a fait les manches supplémentaires, on était dans une période un peu de lockdown, il y avait un couvre-feu, on ne pouvait pas sortir de la maison. Maintenant, les gens ont le droit de sortir de la maison. Le mardi, jeudi soir, maintenant, il y a des games de hockey à télé. Il y a certains côtés de la vie normale, comme on dirait, qui est reparti. Mais je pense qu'on a trouvé une bonne formule qui va permettre à tout le monde d'y trouver sa part. Fait que bientôt, on va en faire l'annonce de la nouvelle programmation. Mais d'ici 2 semaines, les manches supplémentaires vont repartir, puis jusqu'au début de l'année. Encore une fois, en ayant comme objectif de mettre en place les outils idéaux pour que nos bénévoles, nos gestionnaires, nos administrateurs, administratrices puissent devenir meilleurs pour la prochaine saison. Fait que ça va partir très bientôt.
Oui, puis j'invite d'ailleurs, parce qu'on certains de nos collègues à l'interne ont envoyé des messages aux gens pour des sondages, pour savoir les sujets, tout ça, mais j'invite les gens, ceux qui nous écoutent, ceux qui ont des sujets qu'ils aimeraient entendre, là, écrivez-les en commentaire, puis on va s'y attarder sérieusement. Les deux, Max, merci d'avoir été là. Je tiens à dire, Max, Hoc et Vanessa, mercredi, vous allez être ensemble. Je serai absent. Vous allez recevoir, je pense que ça va être assez populaire en fait, là, mais vous allez recevoir le joueur des Blue Jays, Otto Lopez. Comment t'abordes ça? As-tu hâte?
Ouais, j'ai hâte de voir son expérience, son parcours. Chaque parcours est différent. Fait que ça va être intéressant de l'entendre. Très, très bonne idée.
Effectivement. Puis vendredi, on reçoit Julie Gosselin qui va venir nous parler de plusieurs projets au niveau du leadership féminin. Donc, une belle semaine à venir pour ceux qui vont nous regarder et nous écouter. Merci les boys. Bonne journée. Merci à ceux qui sont là. On se revoit prochainement.
Salut tout le monde. Bonne semaine.
De la famille H2O Web Media.